Bienvenue dans le Movers and Checkers Show d'Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réuni. Dans ce talk show, je partage ma conversation avec une personnalité engagée pour une mode plus durable, éthique et responsable. L'objectif, comprendre les enjeux et partager des solutions concrètes pour améliorer les pratiques au sein de notre industrie. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. On est aujourd'hui dans un Movers and Checkers que je fais en collaboration avec GetReal. On les a eus il y a quelques semaines en groupe. Aujourd'hui, on a uniquement Alexia Tronel et on est très content d'être avec Alexia uniquement, même si on aime beaucoup les deux autres. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet dont on parle pas suffisamment, je crois, et qui on parle des standards. Voilà, est-ce que c'est un outil de transparence? Comment est-ce que les marques peuvent l'utiliser pour être plus transparent, pour communiquer auprès de leurs clients, auprès de leurs fournisseurs, etc. Donc c'est vraiment le sujet du jour. Alexia, je te propose d'introduire peut-être un peu mieux que moi le sujet du jour et qu'on déroule un petit peu notre présentation.
Ok, ça marche. Salut Adrien, en tout cas, merci de me recevoir. Alors oui, tu l'as dit, c'est un sujet dont on ne parle pas assez et pourtant qui dessine peu à peu une nouvelle géopolitique dans l'industrie de la mode. Quel est l'enjeu politique des standards? Donc on va essayer de voir pendant cette petite session les éléments clés qui déterminent clairement le dessous des cartes des standards et des labels.
C'est vrai qu'on a parfois du mal à s'y retrouver entre les labels, les standards. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est quoi la différence entre un label et un standard d'ailleurs?
Ouais, alors je vais revenir sur cette classification. Il y a beaucoup de termes à distinguer. Déjà, il y a une différence entre les outils d'évaluation internes et externes. L'auto-évaluation, la norme, la certification, l'accréditation, les labels. Donc, on va peut-être revenir un tout petit peu plus tard, mais je voulais revenir sur le premier point déjà pour qu'on comprenne bien le contexte. On l'a bien vu dans les derniers épisodes et on en parle tout le temps. L'industrie du vêtement, elle est hyper fragmentée. On a besoin d'un changement systémique. Ok, ça on le sait.
C'est acquis, ouais.
On va pas l'apprendre aussi. Il y a une montée en puissance du développement durable et de la RSE. Et concrètement, ça se traduit par la démultiplication de standards et de labels en tout type. Donc, d'un côté, c'est une super nouvelle, c'est un super signal. On peut se dire que c'est l'avènement de la transition écologique, le grand changement qu'on attend. Donc, la RSE devient une préoccupation business majeure pour les entreprises. Et clairement, il y a plein de raisons à ça. D'abord, parce qu'il y a cette demande de transparence de la part des consommateurs. Aussi, parce qu'il y a cette augmentation de la couverture médiatique derrière. L'émergence des applications comme Good on You, Clear Fashion, où il y a un enjeu de référencement. Et même derrière aussi, la part des retailers, comme les Galeries Lafayette, Selfridges, pour que les marques référencées atteignent peu à peu des objectifs pour continuer à être distribuées. Donc voilà, donc c'est un peu ce contexte. Et derrière, en fait, tout ça, ces outils de contrôle, c'est pour prouver la véracité des actions. Et donc, c'est des outils qui vont devenir de plus en plus clés dans l'évaluation des entreprises. Mais il y a quand même, derrière cette super nouvelle, un autre côté, un peu un double écueil. C'est que d'abord, aujourd'hui, il y a tellement de références que ça devient très technique pour les petites et moyennes entreprises de s'y retrouver. Parce que elles n'ont pas forcément une équipe dédiée, par exemple. Et puis aussi parce qu'il y a plein de niveaux différents dans les standards qui vont aller de la matière première, par exemple GOTS, jusqu'à la mission d'entreprise avec les B Corp, en passant par le produit, cradle to cradle. Donc à chaque niveau, à chaque fois, il y a des outils différents. Donc ça rend vraiment tout ça très complexe. Donc voilà, et ça, c'était le premier écueil. Et le deuxième écueil, c'est qu'il faut aussi comprendre que derrière ces références, il y a plein de présupposés qui vont formuler une vision propre de la mode responsable. Donc il y a un super rapport là-dessus que je vous invite à aller voir, on mettra la référence, c'est le rapport de la Fédération de la Couture, standard de développement durable dans la mode et système d'information, quels enjeux, quelles politiques. Et en fait, ce qui est dit là-dedans, c'est que c'est une sorte de course de vitesse pour prendre l'ascendant et ensuite s'affirmer et dominer à l'échelle mondiale. Rien que ça. Autrement dit, en fait, c'est l'enjeu d'imposer une norme avec tous les ressorts market et les lobbying qui existent, et donc une vraie course, ce qu'on appelle le soft power. Donc voilà, en fait, c'était juste ce petit contexte que je voulais remettre parce que je le trouve hyper intéressant et en fait, je trouve ça assez passionnant. Peut-être je vais revenir sur les termes que tu voulais que je définisse les outils RSE qui sont assez, en effet il y en a plusieurs. Évidemment, tous les outils RSE, ils sont c'est des outils qui sont importants pour connaître les progrès des marques, leur positionnement les unes par rapport aux autres, pour garantir cette transparence qu'on réclame, et sensibiliser tous les acteurs de l'industrie. Et aussi en interne, dans les boîtes, pour qu'il y ait un vrai changement de culture qui s'instaure et qui soit la transformation véritable de la marque. Donc voilà, donc du coup, je vous ai dit qu'il y avait interne et externe. Donc en interne, c'est l'auto-évaluation dont on parle. C'est ce qui permet à une boîte de pouvoir se connaître elle-même et de justement d'aller former, dégager une vision d'entreprise. Et par contre, la seule chose, c'est qu'une auto-évaluation, ça reste une auto-évaluation, on fait soi-même. Donc, c'est une forme de subjectivité, car celui qui évolue, il est à la fois juge et partie. Après, on a tout ce qui arrive sous forme d'évaluation externe. En gros, du plus général au plus spécialisé, on trouve les normes, les certifications, les accréditations et les labels. Donc, tout en haut de la pyramide, il y a la norme. C'est ce qui chapeaute l'ensemble. C'est un document de référence qui est approuvé par un institut reconnu. Et elle peut être volontaire ou elle peut devenir obligatoire quand c'est en fait que ça devient une réglementation dans le cadre d'un projet de loi.
Après, c'est quoi là, c'est que, par exemple, c'est REACH par exemple en Europe, non?
C'est ça. C'est par exemple tous les ISO, par exemple les REACH, ouais, carrément. Voilà, on a pas mal. après la norme,
ouais, il y a
la certification. C'est une procédure qui permet donc de certifier la qualité et la conformité des produits par rapport à la norme par un organisme certificateur. Il y a l'accréditation qui permet de vérifier l'indépendance et l'impartialité d'un organisme certificateur. Et enfin, en bout de chaîne, il y a les labels. Donc les labels, c'est vraiment ce qui va permettre de choisir un thème, donc la qualité, l'origine, les spécificités d'un produit, la conformité aux normes. Et donc là, pour les labels, on se rend compte qu'il y a plein d'organisations variées qui peuvent émettre ces labels, puisque ça peut être du public, ça peut être de l'associatif ou ça peut être carrément des regroupements professionnels. Donc ça fait quand même un panorama assez large. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a une liste qui devient hyper longue. On connaît les plus connus, GOTS, Ecotex, mais jusqu'à, on se rend compte qu'il y a des nouveaux, comme en Afrique du Sud, on parle du Moher. Et puis, si tu te balades dans Première Vision, tu as dû voir qu'il y avait plein de fournisseurs qui ont créé leur propre label et qui proposent des matières bardées de labels, encore jamais vues, mais qui contiennent des mentions Eco, Green. Et donc, on en revient un peu à cette question. Est-ce que c'est du marketing? Est-ce que, dans quelle mesure, c'est transparent? Et est-ce qu'on peut s'y fier? Oui ou non? Donc, voilà.
Et alors? Est-ce qu'on peut s'y fier? Non.
Eh ben, la question, est-ce qu'on peut s'y fier? Oui, non. Comment on fait pour nous mener notre enquête? En fait, il n'y a pas de réponse, malheureusement, toute faite. Il y a des super fournisseurs qui instaurent des belles initiatives, mais qui n'ont pas de label. Donc, c'est toujours la même chose, c'est d'aller vérifier ces infos.
Ouais, je crois que le parti pris, enfin, moi, j'ai l'impression que la certification, le label, ou en tout cas le GOTS, le RWS, etc., c'est ce qui existe de mieux aujourd'hui sur le marché pour prouver notre bonne foi à nos clients et auprès de nos fournisseurs et nos partenaires. Mais la meilleure des choses à faire, ça reste quand même d'aller rencontrer ces fournisseurs, aller sur place, aller leur parler et faire en sorte que d'établir une relation de confiance hyper puissante, quoi.
Ouais, exactement.
Alors, il y a un autre truc dont t'as pas parlé encore, c'était le IG Index. Alors ça, j'ai l'impression que c'est un truc qui revient régulièrement dans les conversations. Tu mets ça dans quelle case ?
Eh ben, j'allais y venir et tu mets le doigt là sur un nouvel élément qui vient brouiller nos cartes. Ce serait trop simple sinon. Il y avait la classification que je viens de donner, et en plus de ça, il y a plusieurs choses qu'il faut qu'on évoque. C'est donc les initiatives d'entreprise, dont fait partie le IG Index, qui à la base est le Nike Apparel Environmental Design Tool, qui est devenu le IG Index la Sustainable Apparel Coalition. Donc il y a ça, ces initiatives d'entreprise qui sont des coalitions et qui vont mettre en place leurs propres outils. Il y a les classements aussi qui prennent vachement de place. On se rend compte que en fait avoir une bonne stratégie de développement durable, c'est aussi arriver à se placer en haut des classements. Il y a aussi bien le Fashion Transparency Index de Fashion Revolution qu'on a parlé récemment pas mal, mais aussi des classements qui sont moins connus, hein, moins connus, je veux dire du grand public, qui est comme celui du Dow Jones, le Sustainability Index, et qui reprend pas forcément les marques de mode, quoi, qui est beaucoup plus large. Et puis aussi, je t'en parlais au début, les apps comme Clear Fashion ou Good on You, qui sont encore complètement autre chose, puisque elles-mêmes sont des applications qui font leur classement à partir des déclarations des marques avec des moyens de contrôle assez variables, donc qui n'auditent pas elles-mêmes en fait, hein. Et donc ça donne un système de notation de classement qui est variable, hein, selon les infos qu'on va collecter.
Ça fait quand même pas mal d'infos tout ça, hein. Du coup, qu'est-ce qui note, comment ça se passe concrètement? Et moi, j'ai envie de te rajouter une question, c'est comment les clients ils voient plus clair, quoi. Ça fait beaucoup trop d'informations à engranger et à absorber et à analyser, quoi.
Je pense que la question, elle est aussi bien pour un professionnel que pour un client. C'est toujours la même, ouais. C'est de s'interroger. Je crois que c'est un peu de se poser la bonne question de comment a été fait un produit, et pareil, qui édicte un standard, comment les critères ont été choisis, comment les données sont récupérées, comment elles sont traitées. On se rend compte que même les softwares, ils ont un impact. Et qui contrôle et audite tout ça derrière aussi. Donc, c'est un peu un gros morceau de data. Ça veut dire qu'il va falloir choisir parmi de nombreux critères qu'on va pondérer. On va dire que c'est un savant calcul et qu'il a derrière un caractère complètement relatif. Donc, en fait, chacun peut faire son choix. C'est quelque chose qui est très personnel au final. En tout cas, de faire ce choix-là. Après, le standard, il va pas le changer en étant client. Donc, on se rend compte qu'il y a des chaînes de valeur déjà pour chaque produit qui est aussi bien plus longue qu'on ne le pense, avec les fameuses histoires du tiers 1 de fournisseurs qui sont plus près de la marque. Mais après, on va jusqu'au tiers 3 et en fait, on remonte jusqu'à la matière première. On se rend compte que ça fait plus de points de contrôle et ça complexifie carrément la traçabilité. Donc, les marques, aujourd'hui, elles sont pas toujours capables de remonter exactement toute cette chaîne. Et ça peut avoir un impact sur la performance globale et ses résultats. D'ailleurs, il y a une chose, en fait, qui est assez intéressante aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à être très porté quand même sur l'impératif de performance environnementale, ce qui est une bonne chose, hein, notamment l'empreinte carbone. mais ça a tendance à prendre le dessus sur pas mal d'autres critères d'évaluation. Donc il y a moi j'ai un exemple qui revient, qui est assez concret et qui est d'ailleurs cité encore dans le rapport de la Fédération de la couture et que moi il me tient à cœur parce que j'aime bien l'artisanat, c'est celui donc de la culture et des savoir-faire. À ce stade, en fait, on se rend compte que ça pèse pas vraiment dans beaucoup de critères d'évaluation internationaux, comme par exemple le IGIDESC. Pourtant, en fait, c'est quand même synonyme de qualité, de longévité des produits, et même c'est souvent des critères qui font vivre des communautés entières. Donc clairement, on peut se demander, si c'est des enjeux de développement durable, pourquoi on les retrouve si peu? Pourquoi on les considère pas assez?
Est-ce que tu aurais peut-être un exemple concret pour illustrer tout ce que tu viens de nous dire?
Oui, j'étais en train de donner l'exemple du IGIDESC, qui est une histoire assez intéressante, puisque c'est l'outil de la SAC, qui est en train de devenir vraiment une vision prépondérante et qui remonte même dans les discussions au Parlement européen. Donc à l'origine, la SAC, pour ceux qui connaissent pas, c'est une collaboration assez surprenante entre deux géants, Walmart et Patagonia. Et c'est rapidement devenu une coalition mondiale de marques pour le développement durable dans la mode. Aujourd'hui, la SAC, elle a repris et porté l'outil de Nike Apparel Environmental Design Tool, c'est super sympa à dire, qui s'appelle maintenant le IGIDESC. Donc, c'est un outil, clairement, qui représente un ensemble d'outils d'auto-évaluation, donc c'est volontaire. Et donc ça va auto-évaluer, on va auto-évaluer l'impact environnemental et social des marques, des usines et des concepteurs de produits. Donc ce n'est pas que pour les marques. Et en fait cet outil aujourd'hui, il est en train de regrouper beaucoup de monde, on va dire. C'est vraiment aussi bien des petites, des moyennes et des grandes entreprises. Et donc ce qu'on va un peu observer, c'est que si on se place dans une perspective européenne, voire française, on peut un peu regretter aujourd'hui que ce genre d'outil qui est en train de devenir une norme internationale prépondérante, et ben justement, comme on le disait tout à l'heure, et ben ils prennent pas assez en considération l'exemple des savoir-faire, de la culture. Et donc ça valorise pas assez ces indicateurs-là. Et en fait que ce soit une vision, une façon de voir assez type anglo-saxonne, puisque c'est une coalition qui représente plus largement les marques américaines et anglo-saxonnes. Donc voilà, donc c'est un peu un petit nœud, mais c'est vrai qu'on voit que ça prend vraiment de l'ampleur. Il y a plein d'autres choses qui sont pas forcément encore représentées aussi. Tout outil a ses imperfections, évidemment. Là, on voit que la recyclabilité, la durabilité, le bien-être animal, tout ça, c'est pas vraiment pris en compte. Mais ce qu'on peut plus reprocher à cet outil, c'est qu'aujourd'hui, c'est un outil hyper généralisé, mais qui n'a pas de mécanisme externe de contrôle et qui est pourtant, qu'on retrouve de partout et qui va considérablement conditionner les échanges du futur et voire maintenant, puisqu'il y a déjà des distributeurs qui sont en train de dire qu'ils vont de plus en plus regarder le classement des marques qui auront pu utiliser cet outil. Donc ça risque de favoriser, on va dire, quand même plus les grandes marques de fast fashion que les petites marques d'artisanat, on va dire, et qui auront plus de mal à adopter ce genre d'outils.
Du coup, alors, est-ce qu'il y aurait une stratégie pour remettre un peu d'ordre dans tout ça, d'après toi?
Alors oui, il y a un vrai enjeu de réglementation publique. Donc entre les pays aussi bien du G7, de l'Union européenne, de l'ONU. Nous, on a vu qu'on est quand même pas mal en train de bouger avec la loi pour l'affichage environnemental, qui est initiée par la France et qui est en train d'être promue au niveau européen et qui pourrait même être adoptée par le G7. Donc c'est plutôt favorable.
Ça consiste en quoi ça ?
Donc ça consiste, la loi pour l'affichage environnemental, c'est est gérée par l'ADEME à ce stade, qui met un outil à dispo. C'est sur la base du volontariat. Donc l'affichage environnemental montre les impacts environnementaux des produits tels qu'ils sont, donc forts ou faibles. Et chaque produit est noté à travers un nombre limité d'indicateurs d'impact environnementaux. Donc en général, il y en a entre 3 et 5. Et puis on retrouve surtout les émissions de gaz à effet de serre. Donc à la fin, on va obtenir une note sous forme de lettres A, B, C, D. Et c'est un classement qui est relatif. Donc en fait, il est surtout destiné à guider le choix des consommateurs. Il y a déjà des marques qui le font très bien, comme Decathlon, Hokkaidi, les marques du Nord. Mais pour répondre à ta question, la définition de la mode de demain, c'est un vrai enjeu pour valoriser chaque modèle. Et nous, en France, on a une vraie diversité de modèles et on a une vraie place grâce à la créativité et à nos savoir-faire. Donc c'est pour ça que les standards, ils sont très importants pour défendre cette vision et notre façon de faire la mode. Donc voilà, l'enjeu, c'est de pouvoir instaurer des standards qui vont être là pour défendre notre façon de faire et puis aussi de pouvoir réguler tout ça.
Et en tant que marque, comment on peut naviguer là-dedans et par quoi on commence finalement pour se mettre à niveau?
Je pense qu'on pourrait donner 3 conseils aux marques. Le premier, c'est toujours un peu le même, mais c'est de bien se connaître. Et donc, en tant que marque, en commençant par le mapping de sa supply chain, en remontant le fil. Et donc, ça permet déjà d'avoir une vision d'ensemble, d'identifier les hotspots et de prioriser ce qui est vraiment ce qui nous tient à cœur. Parce que ça va être difficile de tout quadriller dès le début. Ce qui nous amène au deuxième conseil, c'est qu'il faut travailler sur une combinaison de standards pour arriver à couvrir les aspects de l'entreprise. Donc c'est vraiment pour éviter l'écueil du greenwashing. C'est pas en ayant juste un produit avec le label GOTS qu'on va pouvoir se vanter d'être green. Et donc j'en viens à mon troisième point, c'est qu'en effet, pour s'y retrouver, il faut pas hésiter à questionner les standards, qui les a émis, comment ils sont contrôlés, et à faire appel surtout à ses pairs et aux acteurs indépendants pour pouvoir y voir plus clair. Donc pour avoir aussi des retours d'expérience sur ce qui a pu déjà être utilisé, ce qui semble être cohérent, intéressant. Et donc voilà, en gros, on dira jamais assez, mais sans échange, on n'atteindra pas les objectifs.
C'est clair. Très bien. Eh ben écoute, merci beaucoup Alexia de nous avoir un petit peu éclairé sur tous ces sujets-là. Je réitère ma question de la fin, c'est toujours comment est-ce qu'on peut en savoir plus et peut-être rentrer en contact avec toi ou avec GetRail pour creuser ces sujets-là. Dis-nous.
On est disponible. Déjà, vous pouvez remonter vos remarques à travers Adrien et puis on est disponible sur Instagram, par email, Instagram c'est GetReal et par email tu peux, s'il faut le demander à toi et voilà, et on pourra communiquer.
Trop bien, cool, voilà. Et ben, merci infiniment.
Merci Adrien, j'espère que c'était clair.
Prends bien soin de toi. Ouais, si, c'était très clair. Non, mais moi, en plus, j'ai la chance de baigner dedans depuis un petit moment, donc ça commence à être clair. Mais je trouve que pour tout un chacun et tous les gens qui nous écoutent, au début, ça peut vite être du chinois et ça peut être vite. C'est pas non plus le truc le plus excitant dans le métier de créateur. Donc, mais il faut quand même s'y coller parce que c'est quand même des sujets qui sont hyper importants pour les années à venir. Donc. Ouais. Enjoy, réécouter l'épisode une deuxième fois.
Ça marche, bon, bonne journée, merci Adrien, salut.
Ouais, salut, ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.